Lyon.
Radio 1, premier sur l'info, le journal.
Mercredi 4 février, il est 7h30. C'est parti pour le journal. Tamara Sentis, bonjour.
Bonjour Moretto, bonjour à tous. Le patronat s'inquiète des répercussions que pourraient avoir les querelles au sein du Tawera. Les représentants Christophe Plé et Olivier Cressman se sont fendus lundi soir de deux lettres ouvertes destinées aux représentants de l'Assemblée. Ils alertent concernant les risques d'instabilité politique. La représentante Orange, Élise Vanna, souhaite apaiser les tensions. Elle a affirmé en exclusivité à Radio 1 qu'il n'y aurait pas d'instabilité et que les élus Tawera se prononceraient en faveur de l'augmentation des indemnités d'Edouard Fritsch. De son côté, Edouard Fritsch, lui, a été entendu au tribunal hier. Il ne s'agissait pas de vaisselle, mais de radio, et plus précisément de l'affaire Radio Maori. Elle concerne le versement de 15 millions de francs de la mairie de Pirée à la radio politique. Selon nos sources, le président est mis en examen pour détournement de fonds publics. Enfin, il sera question de VAA dans ce journal avec les championnats du monde de vitesse 2018 qui auront bien lieu à Tahiti. L'information a été confirmée. Ils se tiendront à Pirée du 24 juin au 7 juillet.
Et le Tawera veut calmer les esprits en ce qui concerne les risques d'instabilité.
Lundi soir, les représentants du patronat, Christophe Plé et Olivier Cressman, ont envoyé deux lettres ouvertes aux élus de l'Assemblée pour s'élever contre les risques d'instabilité politique qui pourraient découler des tensions qui gangrènent le Tawera Wiratira. Pour le président de la CGPME, Christophe Plé, si l'actuel gouvernement est renversé, les conséquences seront catastrophiques pour l'économie du pays.
Si instabilité il y a, on l'a connu pendant toutes ces dernières années, les chefs d'entreprise n'investiront plus, ils vont perdre le moral, ils vont dire ça y est, ça recommence, on est reparti pour une fournée, et la conséquence de ça, ça sera qu'ils n'investiront plus et qu'ils ne créeront plus d'emplois. Voilà, la sanction elle sera directe, voilà, parce que ce sont les entreprises qui créent les emplois dans ce pays. Voilà, et ça la sanction elle sera directe. Donc si on veut pas faire ça, il faut développer et travailler pour ce pays.
Et le message est donc clair, il faut cesser les guerres de pouvoir.
C'est en cause, c'est les petites guerres de pouvoir. Certains jouent les chamailleries à l'Assemblée de Polynésie française. Je crois qu'on a autre chose à faire pour élever le débat, se sentir responsable par rapport au drame économique qui est en train de se jouer par rapport à nos jeunes. Je crois que le peuple polynésien a donné une majorité franche à un parti pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire avancer la Polynésie. Et là, d'un coup, ça n'avance plus. Écoutez, on arrive à ne plus rien comprendre. Comment, en 4 mois, on arrive à mettre un président et à vouloir l'enlever?
Du côté du MEDEF, Olivier Cressman fait le même constat des conséquences catastrophiques qu'aurait un nouveau changement de gouvernement.
C'est catastrophique, tout simplement. Ça serait l'anéantissement de déjà plus de 18 mois de travail relance. Ça serait une image encore plus dégradée du pays. Ça serait définitivement la perte de confiance des investisseurs. Or, je vous rappelle que les investisseurs, ils viennent investir dans des pays où ils considèrent qu'il y a un potentiel de développement. Ça n'est pas que sur le papier, c'est aussi une volonté politique de le faire. Tant qu'on restera dans une instabilité politique, on restera donc en marge de tout l'intérêt que peut porter les investisseurs importants étrangers. Aujourd'hui, après 9 ans d'instabilité, on sait très bien que ces instabilités peuvent venir de tous bords. Donc nous adressons à l'ensemble des élus, et jusqu'à preuve du contraire, les élus de la Polynésie française représentent la Polynésie française qui n'est ni orange, ni jaune, ni bleu. Donc nous demandons aux élus d'être dans leur rôle, et ce pourquoi ils ont été appelés à siéger à l'Assemblée.
Contacté hier, l'élu Tawera Élise Vanna reconnaît que les élus et le gouvernement ne sont pas toujours en phase sur certains dossiers, mais elle assure qu'Edouard Fritsch tiendra les rênes du pays jusqu'à la fin de son mandat en 2018. On l'écoute au micro de Vaïté Ouréry Pambrin.
Avec eux, on sent bien l'inquiétude de ces deux présidents avec les membres qui composent leur organisation quant à la relance de l'économie, les grands projets. Donc on comprend bien, ils ne sont conscients aussi de cette préoccupation qui les anime.
Les chefs d'entreprise font état d'une instabilité qui s'installe une fois encore au sein de l'Assemblée de la Polynésie. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Bon, c'est vrai que tout le monde parle de ça, mais il n'y a pas d'instabilité. Comme on l'a dit, M. Edouard Fritsch reste notre président jusqu'en 2018, jusqu'au prochain renouvellement. Bon, il y a des choses qui relèvent de l'Assemblée et puis on attend aussi des propositions du gouvernement. Mais je peux rassurer qu'il n'y aura pas d'instabilité avec ce nouveau gouvernement. Nous n'avons pas été en phase sur deux dossiers, quand je rappelle la résolution et les indemnités. On n'a jamais été contre les rangs des indemnités. Mais pour l'instant, nous sommes aussi animés de la même préoccupation que ces deux organisations pour relancer l'économie.
Et Élise Vanna s'est également exprimée sur l'augmentation des indemnités d'Edouard Fritsch.
En effet, en exclusivité pour Radio 1, la présidente de la commission de l'économie et des finances à l'Assemblée nous a affirmé que les élus orange vont s'unir en faveur du réajustement des indemnités du président. Le dossier sera examiné demain lors de la séance de la commission permanente et Élise Vanna est confiante de voir ce dossier arriver à son terme et ainsi ramener la sérénité au sein du groupe et du gouvernement.
Je suis confiante qu'on va trouver un terrain d'entente et puis qu'il faudra lever l'indemnité de notre président.
Tu viens de dire trouver une entente, c'est-à-dire alors que vous n'allez pas voter à l'unanimité
Si, nous, Otahuera, nous allons voter d'une seule voix et puis d'une seule voix et nous allons soutenir jusqu'au bout les propositions qui nous seront faites.
Pour rappel, le sujet avait été motif de clash lors de la commission de l'économie en décembre et puis de la commission permanente il y a tout juste 2 semaines.
Édouard Fritsch a été entendu dans le dossier Radio Maui.
Le président du pays, Édouard Fritsch, a été en effet brièvement entendu par le juge d'instruction hier matin dans le cadre de l'information judiciaire du dossier Radio Maui. Ce dossier, dans lequel le président du pays est mis en examen depuis le 27 février 2013, concerne le versement de 15 millions de francs de subventions de la mairie de Piré à la radio politique. C'était entre 2007 et 2008, alors qu'Édouard Fritsch était le maire de la commune. Ce dernier conteste les faits qui lui sont reprochés, estimant que sa décision de l'époque avait été acceptée par l'administrateur de l'État, l'homme chargé du contrôle de la légalité des actes municipaux. Toutefois, selon nos sources, l'audition d'hier matin a été l'occasion de modifier le chef de mise en examen d'Edouard Fritsch de prise d'illégal d'intérêt en détournement de fonds publics.
On parle maintenant du Fifon avec le film sur la vie de Bobby.
Le réalisateur Jeff Bedamza était l'invité du journal de Radio 1 hier midi. Pour son premier documentaire et sa première sélection officielle au Fifo, le professionnel de l'audiovisuel s'est attaqué au monstre sacré de la culture, Bobby Holcombe. Selon lui, on a tous un peu de Bobby en nous.
On a tous un peu de Bobby en nous aujourd'hui. 23 ans après, on se rend compte que Bobby est toujours présent. À l'instant, on a entendu une publicité avec une musique de Bobby. Voilà, il est là en musique, il est là en image aussi. On retrouve un petit peu les motifs ou les traits de Bobby. On les retrouve régulièrement sur des t-shirts, on les retrouve sur des affiches, on les retrouve un peu partout. Donc il a vraiment marqué son temps. Et puis il est un petit peu, je dirais pas à l'origine de cette espèce de renouveau culturel polynésien, parce qu'il y a d'autres personnes comme Henri Hiro qui ont vraiment beaucoup participé, mais ce qu'il est certain, c'est qu'il a permis, grâce à ses chants, grâce à ses peintures, il a permis de faire prendre conscience de tout cela au plus grand nombre. C'est-à-dire que d'un coup, il n'était plus dans un discours trop intellectuel, il était vraiment dans quelque chose qui était accessible, il a touché un maximum de gens, beaucoup de gens se sont rendus compte que leur langue, leur culture, c'était important, beaucoup de gens ont pris conscience de tout ça, et c'est vraiment quelque chose qui a fait bouger les lignes en Polynésie.
Et puis sachez que Jeff Bedamza n'est pas seulement l'un des réalisateurs sélectionnés pour ce 12e FIFO, il anime également cette année l'atelier prise de vue et montage sur iPad.
Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que les gens se sont appropriés ces outils-là pour filmer et pour faire des images. Je fais beaucoup de captations de spectacles vivants et on voit des forêts d'iPad et de tablettes et de téléphones qui apparaissent. Donc les gens ont décidé que c'était leur outil de prédilection pour faire des images. Étant un professionnel de l'audiovisuel, ce qui m'a intéressé, c'est de donner aux gens des clés pour comprendre comment est fait une image et comment se fait un montage de façon à ce qu'ils puissent optimiser la prise de vue.
Et on arrive à de bons résultats justement avec des films sur iPad ?
On arrive à des résultats qui sont tout à fait corrects si on considère qu'il y a 10 ans on n'arrivait pas à faire des images d'aussi bonne qualité que celles qu'on fait aujourd'hui sur un iPad. Cela étant, c'est vrai que pour faire un documentaire de création sur iPad, c'est pas forcément l'outil adapté. Mais compte tenu du fait que c'est un outil que les gens se sont approprié, je trouvais intéressant de leur donner la possibilité d'optimiser les prises de vue et le montage.
Il répondait aux questions d'Antoine Samoyau. Pour votre information, les projections de Bobby auront lieu aujourd'hui à 17h, demain à 11h30 et dimanche à 10h30. Les ateliers de prise de vue et montage iPad se déroulent, eux, jusqu'à samedi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h.
Et en sport, c'est officiel, le mondial de VA 2018 aura lieu à Piré.
René Temeharo, le ministre des Sports, Doris Hart, la présidente de la Fédération Tahitienne de VA, et Jean Chicou, conseiller municipal de Piré, se sont rendus en Australie pour défendre la candidature du Fénois face à Hawaï. Et le vote final des pays membres de la Fédération internationale a donné 15 voix pour Piré contre 4 seulement pour Hawaï. Selon le ministre des Sports, c'est le dossier bien ficelé de Piré qui a permis de faire pencher la balance. Il est interrogé par Vaïté Ourari Pambrin.
Nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau, après 30 ans de compétition dans la ville de Piré, et aujourd'hui, en 2018, nous allons encore à nouveau recevoir ce championnat du monde.
Quels sont les arguments que vous avez avancés justement? Parce qu'en face, vous aviez Hawaï aussi qui s'était proposé.
Le dossier de la Polynésie était bien ficelé, alors que Hawaï manquait des précisions. Nous avons mis en avant, par exemple, la volonté de l'RTT Nui de mettre en place un tarif préférentiel, l'avantage d'être à Piré avec toutes les infrastructures autour, l'hébergement de proximité. Des choses que les Hawaïens ont oublié. Leurs atouts, c'est les malls, shopping centers autour, donc ça n'a pas pris.
L'événement aura lieu du 24 juin au 7 juillet 2018. L'occasion aussi pour René Temeharo d'inviter les athlètes à participer aux festivités du Heiva et au Fa'ati Morea.
On passe maintenant aux suites de l'affaire du tripot de Poudahouia.
Souvenez-vous, dimanche, les gendarmes de la brigade des recherches, avec l'appui du GIR, ont démantelé un véritable petit casino dans lequel se trouvaient une quarantaine de joueurs réunis à des tables de blackjack, de poker ou de roulette. Un système de taxi avait même été mis en place pour aller chercher les joueurs. Contrairement à ce que nous indiquions hier, les gendarmes n'ont pas placé les propriétaires mais les locataires de l'habitation en garde à vue. Hier matin, les trois tenanciers du tripot ont été mis en examen. 7 millions de francs provenant des recettes de jeu ont été saisis sur leur compte en banque ainsi que trois véhicules et la maison elle-même. Le principal suspect de cette affaire est Frank Itzing. Il a été placé en détention provisoire pour le reste des investigations. Déjà condamné à 12 ans de prison pour meurtre en 1993, il avait également été condamné pour l'organisation de maisons de jeu déjà en 2008 et 2014. Il est 7h, passé de 41 minutes, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, on écoute vos messages sur le répondeur.